Bonjour Philippe Bilger.
Bonjour.
Vous avez exprimé un vif enthousiasme sur votre compte Twitter qui est très actif, disons-le, dans les instants qui ont suivi la victoire d'Emmanuel Macron dimanche soir. Vous avez notamment salué la qualité de son discours, je vous cite, le plus beau depuis longtemps. Vous a-t-il pleinement conquis, Emmanuel Macron? Je précise que vous ne le souteniez pas au départ, vous souteniez le candidat de la droite. Vous a-t-il donc pleinement conquis, ou est-ce que vous étiez à cet instant dans une espèce d'euphorie de voir la candidate du Front National battue?
Non, au fond, j'ai connu tellement de soirées électorales, même évidemment au cours des précédents quinquennats, qui, sur le plan de l'esthétique de la victoire, me décevait, ou de la vulgarité, de l'inélégance se manifestait, que j'avais une sorte de peur en réalité, et j'ai trouvé que la manière dont cette soirée du 7 mai a été organisée, sur le plan de l'esthétique et de la poésie, en quelque sorte de l'assomption de la victoire, a été très remarquable. Je n'ai pas vu une faute de goût.
Y compris sur le plan scénographique, avec cette arrivée très mise en scène devant la pyramide du Louvre discours.
Oui, parce que j'ai trouvé que la comparaison avec Mitterrand était absurde. Ou alors il faudrait comparer toujours ceux qui marchent seuls à François Mitterrand. Il n'y avait pas l'ombre d'une componction, d'une pompe un peu grotesque. C'était pas funèbre, c'était la France en quelque sorte, à la fois grave, élégante, sereine, en marche, et surtout pleine d'espérance. Alors ensuite, on verra.
Alors justement, ensuite, puisque quelques instants plus tard, vous disiez, sur Twitter toujours, éclatante victoire, plus que deux détails, tenir toutes ses promesses et gagner les législatives, rien que ça. Vous lui faites confiance, vous le croyez capable d'atteindre ces deux objectifs?
Entendons-nous bien, Frédéric, vous avez bien voulu rappeler que mes choix étaient différents. Oui. Je n'ai jamais dissimulé que le projet de François Fillon était remarquable, malheureusement complètement gangrené par la suite, et que entre Marine Le Pen, pour mille raisons, et Emmanuel Macron, il n'y avait pas d'arbitrage possible en faveur de la candidate du Front National. Mais c'est tellement un objet politique non identifiable, une telle intelligence, une telle plénitude dans les dons et les talents, et puis un tel espoir de la part du citoyen que, pour une fois, ça marche, que au fond, j'ai envie d'y croire. Et oui, je me dis qu'après tout, il n'est écrit nulle part qu'il est condamné à échouer à partir du moment où j'ai constaté chez lui véritablement une connaissance approfondie de la politique et de ses rites.
Vous espérez, je vous cite, qu'Emmanuel Macron va nous débarrasser de la gauche sectaire et d'une droite médiocre.
Ça me ferait plaisir.
Bien entendu, mais est-ce que le risque n'existe pas qu'il se produise exactement l'inverse et qu'il rassemble les deux?
Je ne crois pas, finalement, parce que on peut toujours compter sur la droite médiocre pour être totalement sectaire. Et donc celle-là n'ira pas vers Emmanuel Macron, En Marche, La République. Quant à la gauche dogmatique, n'en parlons pas, et probablement celle qui rejoindra En Marche sera celle qui aura perçu la part de gauche qui existe dans le mouvement lancé par Emmanuel Macron, qui cherche à dépasser droite-gauche en prenant le meilleur dans l'une et dans l'autre, et par certains côtés, ça me rappelle, j'ose à peine le dire devant vous, Frédéric, la campagne éblouissante de Sarkozy en 2007, qui voulait aussi créer une droite et une gauche complètement atypiques.
Vous croyez à la fin du clivage gauche-droite ?
Oui, parce que de plus en plus, les déceptions, les désespoirs, la montée du Front National sur un autre plan montrent que certaines frontières rigides, orthodoxes, n'ont plus aucun sens.
Oui. Alors, puisque vous parlez de la montée du Front National, vous avez déploré la mobilisation contre Marine Le Pen pendant l'entre-deux-tours. Dans ces termes, serait-il inconcevable qu'on laisse les deux candidats s'affronter avec leurs forces et leurs faiblesses, et que, puisque vous le souteniez dans l'entre-deux-tours, et que mon favori Emmanuel Macron l'emporte, sans qu'on éprouve ce sentiment très désagréable pour un citoyen que les dés ont été en partie pipés? Au fond, ce que vous voulez dire, c'est que il ne devrait pas y avoir de Front Républicain et on devrait laisser les deux candidats s'affronter à la loyale, pourrait-on dire ?
En quelque sorte, au fond, vous-même, vous ne me sollicitez pas sur ce plan, mais je n'ai jamais voté pour le Front National et je ne le ferai jamais, même quand il changera de nom. Mais je déteste en même temps que notre République n'ait pas créé en permanence une équité démocratique. Et au fond, mon aspiration la plus profonde serait que le Front National non seulement change de nom, mais se débarrasse des élucubrations politique, puisque historiquement, la fille a vraiment créé un discours qui a quitté les délires du père et qu'on est au fond une union des droites avec un nouveau Front National débarrassé de sa frange facho et nazi. Et il est aberrant que les Républicains qui sont écartelés en deux courants profondément contradictoires, n'est pas encore explosé. On aurait une union des droites qui ne serait pas scandaleuse.
Vous avez vous l'avez exprimé, une pensée pour les électeurs du Front National, sur lesquels on crache, avez-vous dit.
Tout le temps.
Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut changer de regard et de discours sur ceux qui votent Front National ?
Je pense, et j'ai beaucoup aimé le premier discours du président, à cause de ça,
ouais.
Parce que
je les respecte, a-t-il dit.
Voilà.
Ce qui est sans doute inédit dans la formulation,
ouais,
en effet.
Absolument. Dans un univers de totale intolérance démocratique, ça représentait quelque chose. Mais j'en ai assez, moi. Tout le monde parle des deux France, celle des oubliés, des désespérés, des frustrés, des aigres. Et objectivement, peut-être ai-je une propension à me sentir plus proche de cette France-là que de celle qui a soutenu longtemps Emmanuel Macron. Je trouve qu'il faut réintégrer par la psychologie, par la considération, par le respect, cette France-là dans la France.
Le débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, le débat de l'entre-deux-tours, a été globalement considéré comme assez déplorable, et c'est en particulier le ton, l'attitude, le comportement de Marine Le Pen qui a été dénoncé par de nombreux observateurs qui ont dit avoir éprouvé une forme de malaise en regardant ce débat. Pour votre part, l'avez-vous trouvé ?
Je trouve que ce débat a été formidable de sens, parce que c'est la première fois à ma connaissance qu'on a vu à tel point dans cette joute entre deux candidats l'incompétence absolue de celle qui représentait le Front National, et je ne parle même pas de la forme, hein, et de la manière dont elle a mené le débat, et en face, il m'a semblé que Emmanuel Macron a facilement gagné. Et je crois que depuis ce débat, il y a des illusions qui sont tombées, même chez des gens de bonne foi.
Vous êtes un passionné de la parole, vous présidez l'Institut de la parole, vous avez publié récemment aux éditions du CERF un ouvrage qui s'appelle « La parole, rien qu'elle ». Vous avez souvent déploré que les responsables politiques soient plus dans une expression de communication que dans une véritable parole politique. Emmanuel Macron peut-il revigorer, redonner ses lettres de noblesse à la parole politique ?
Oui, s'il accepte de considérer que le discours politique n'a de sens que s'il est inspiré par des valeurs humaines qui nous sont peut-être communes, vérité, sincérité, spontanéité, liberté. Non, si évidemment il est écartelé assez souvent entre la volonté d'être un tribun qu'il n'est pas et une merveilleuse parole d'empathie et de partage, mais qui doit s'adapter aux salles dans lesquelles, devant lesquelles elle est proférée.
Sur le plan strictement acoustique.
Voilà, mais c'est quelque chose de qualité.
Merci Philippe Bilger.
Merci.
Bonne journée.